Radio Okapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
L'accès aux soins de santé devient un casse-tête dans le nord et le sud Kivu. C'est ce qui ressort d'une évaluation menée par le CICR dans environ 240 structures de santé de ces deux provinces dans l'est du pays, confrontées à l'activisme des groupes armés. Les détails dans un instant. Dans la province de la Tchopo, 16 députés sur les 29 que compte cet organe délibérant ont déposé une pétition visant le président, les rapporteurs et les questeurs. Selon les porte-parole des élus pétitionnaires, cette initiative est motivée par un souci de transparence et de redevabilité. L'invité de ce journal, c'est le docteur Antoine Modia. Il est professeur d'université dans le cadre d'Octobre Rose. Il revient sur l'importance de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et donne des précisions sur l'autopalpation du sein. Mesdames et messieurs, bonjour. L'accès aux soins de santé devient de plus en plus difficile dans le nord et le sud Kivu. C'est ce qui ressort d'une évaluation menée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR dans environ 240 structures de santé de ces deux provinces de l'est du pays confrontées à l'activisme des groupes armés. Réalisée du 2 au 10 septembre, cette évaluation dont les résultats ont été rendus publics mercredi révèle que 85% des structures de santé sont en rupture des stocks de médicaments et intrants essentiels pour soigner les malades et les blessés. Une situation aggravée par les conflits en cours dans la région et à l'arrêt des activités de nombreuses organisations humanitaires faute de financement. Les précisions avec vous, Lukin Zao.
Les transferts des blessés vers les structures de santé appropriées posent problème à cause des combats. Certains patients se voient obligés de parcourir des longues distances à pied en risquant leur vie afin de trouver les soins adaptés à leurs besoins. Plus de 70% des structures de santé sur les 240 évaluées ont reçu des blessés par arme. Une situation provoquée par la reprise des violences s'alarme le Comité international de la Croix-Rouge. François Morillon, chef de la délégation.
La situation sur le terrain se détériore avec une reprise des violences armées dans le Grand Nord, le Petit Nord, ainsi que le Sud Kivu, où nous constatons, aux côtés de mouvements de population, un afflux massif de blessés. Cette situation met sous pression des structures déjà fragilisées. Nous nous inquiétons, bien sûr.
Une autre difficulté concerne les ruptures en médicaments essentiels et ceux censés être gratuits, que François Morillon attribue, entre autres, aux défis logistiques.
Par exemple, la fermeture des aéroports qui recevaient les médicaments. Les services, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ne sont plus mobilisables, faute de moyens ou en raison de l'instabilité. Le CICR a d'ailleurs par le passé, à la demande des parties, permis le transit de certains médicaments à travers les lignes de front.
Cette évaluation concerne aussi bien les zones contrôlées par l'AFC M23 que celles contrôlées par le gouvernement, à en croire François Morillon.
Alors que les pourparlers de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis semblent au point mort, Kinshasa réitère sa position. Pas de signature d'accords économiques avec Kigali avant le retrait des troupes rwandaises déployées dans l'est de la RDC en appui aux rebelles du M23. Cette position a été rappelée hier mercredi par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe. Il s'exprimait lors d'un briefing face à la presse. On écoute Patrick Muyaya dans cet extrait proposé par Radio Okapi.
À Washington, la semaine dernière, notre délégation n'a pas signé les documents qui devaient donner naissance au cadre d'intégration économique régionale parce que simplement, nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République a plus d'une fois dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Par exemple, en juillet, le massacre des civils avec un ciblage ethnique qui a eu lieu dans le Rutshuru, tous ces bruits de bottes qu'on entend, dans un tel décor, on ne pouvait pas procéder à la signature de ces cadres qui doivent nous permettre de formaliser une coopération économique. Nous pensons que ces cadres doivent venir après que les conditions d'un retour à la paix que nous souhaitons définitive et durable pourront être réunies.
En Ituri, pendant ce temps, environ 90% des habitants du groupement de Lopa dans le territoire de Djougou sont déjà rentrés ces deux derniers mois dans leur village d'origine, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Bounia. Ce retour massif est rendu possible grâce à la présence des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO déployés temporairement dans cette zone, souvent ciblée par des groupes armés. Les patrouilles des casques bleus ont favorisé la reprise des activités champêtres et scolaires selon les notables locaux. Dans une correspondance adressée mercredi au leadership de la mission onusienne, il plaide pour l'installation d'une base militaire permanente de la MONUSCO afin de consolider cette paix retrouvée. Didier Etienne, notable de Lopa, l'a dit au micro d'Isaac Remoyopé.
Nous constatons quand même il y a calme. Bon, nous avons la présence de la FARDC là-bas. Il y avait aussi la MONUSCO. Car la MONUSCO, elle était venue là-bas, ça avait donné solution à beaucoup de choses. La première que je peux énumérer, il y a la rentrée même scolaire des enfants. Parce que il y avait les sécurités. La population avait quitté les milliers, s'est déplacée de temps en entre. Alors, quand la MONUSCO et la FARDC étaient là-bas présentes, ça a aidé suffisamment. Deuxièmement, la MONUSCO a aidé. Ils faisaient leur patrouille, même accompagnaient nos femmes, nos enfants, même au champ. Et puis, leur arrivée pourrait faciliter aussi la rentrée de certaines populations dans leurs milieux respectifs. Alors, par rapport à ça, en tout cas, nous, la notabilité de l'OPA, avons besoin de la présence permanente de la MONUSCO dans les 10 milliers. Elle venait et puis rentrait. Ça allait beaucoup soulager la population et c'est leur demande. On réclame ça.
Le chef de bureau de la MONUSCO affirme avoir pris acte de cette requête. Il rappelle cependant que la solution durable à l'insécurité qui endeuille l'Ituri demeure le dialogue et la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Dans la province de la Tchopo, l'Assemblée provinciale sous tension. Ce mercredi, 16 députés sur les 29 que compte cet organe délibérant ont déposé une pétition visant les présidents, les rapporteurs et les questeurs. Selon les porte-parole des élus pétitionnaires, Vicky Ilongo Koyale, cette initiative est motivée par un souci de transparence et de redevabilité. Il détaille ici quelques-uns des griefs reprochés aux dirigeants de l'Assemblée provinciale de la Tchopo.
Détournement de $200,000 versés par Kivao pour la réhabilitation de l'Assemblée provinciale qui ont été désorientés et logés dans un compte bancaire privé en violation manifeste des règles de la gestion des finances publiques. Détournement de plus ou moins $50,000 récit en guise de contribution de tous les candidats aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que les sénateurs dont les rapports de la gestion de ces fonds restent un mystère caché jusqu'à ce jour. Gestion opaque des frais de fonctionnement alloués au bureau de l'Assemblée provinciale de la Tchopo depuis le début de la présente législature dont le montant s'élève à 800 millions de francs congolais à raison de 100 millions de francs congolais par mois. Violation des procédures de passation des marchés publics. Haute trahison. Outrage grave aux autorités nationales et provinciales. C'est justement dans ce cadre approprié de notre règlement intérieur que s'inscrit notre démarche de démettre certains membres du bureau.
En réaction, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Mateus Kangalondimo, rejette en bloc les accusations portées contre lui et les membres de son bureau. Il affirme être victime d'une cabale politique. On le suit.
Vous savez, il achète les signatures. C'est $1,500 par signature. Avec promesse d'en rajouter 1,500 les jours du vote. Et puis, ce qui est malheureux, c'est que l'argent du contribuable public qui est en train d'être vidé pour pouvoir obtenir la tête d'un président de l'Assemblée. Mais il oublie une chose, que le président de l'Assemblée, c'est un député. Il restera député. Il aura encore tout pouvoir de contrôle sur lui. Et avec tous les éléments à ma possession, j'ai peur que le gouvernement finisse en prison. J'ai vraiment peur. Parce que ce qui est sûr, de la même manière que je me comportais comme président, que je continue de me comporter, même si je suis déchu, rien ne changera. C'est là où peut-être il y a une petite confusion dans les chiffres des gens. Les gens pensent que Mateus, qu'ils ont connu hier, rigoureux et tout ceci, a changé. Non. C'est simplement un homme d'État qui ne doit pas se comporter comme un homme de la rue. Mais il reste le même. Notre combat avec le gouvernement n'a pas commencé aujourd'hui, tout a commencé au lendemain de son élection. Parce que c'est pas un secret, il faudra que je le dise, que toute la population de la Tchopo sache. Je ne l'ai jamais voté. C'est là où je ne me reproche de rien par rapport à tout ce qui se passe actuellement à la Tchopo. On n'a jamais parlé le même langage avec lui. Il a toujours cherché ma tête le lendemain de son élection parce qu'il sait que je n'ai pas voté pour lui. Alors aujourd'hui, il faut mettre ma tête à prix. Mais je n'ai pas peur de tout ça.
C'était un dossier proposé par notre correspondant à Kisangani, Jacques Moukonkole. Au Congo central, 48 heures après son installation, le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, Jean Landou Ntsongo, a évalué hier, mercredi, les dégâts causés dans la salle de plénière. Ces dégâts sont survenus lors des échauffourées du lundi 6 octobre entre les députés provinciaux pétitionnaires et les partisans de Papi Mantezolo, l'ex-président de cet organe délibérant. Jean Landou Ntsongo a profité de la prise de possession de son bureau de travail pour constater l'ampleur des dégâts. Il a affirmé que les auteurs de ces actes devront répondre de leurs actes devant les instances compétentes. Le point avec Nana Plurichmambo.
Des équipements de sonorisation et des caméras saccagées, des tables et des chaises fracassées, des rideaux déchirés, des vitres et des fenêtres et des portes brisées. Voilà l'image désolante qu'offre aujourd'hui la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ces dégâts témoignent de l'ampleur de troubles qui ont éclaté le lundi dernier lorsque des bagarres ont opposé des députés provinciaux alors qu'ils s'apprêtaient à examiner les pétitions visant les présidents et les vice-présidents de cet organe délibérant. Après la déchéance de ces deux responsables mardi, le président du bureau provisoire Jean Landou Ntsongo a procédé à une évaluation des dégâts ce mercredi. Il promet des sanctions contre les auteurs de ces actes.
Nous faisons le constat, au moment où nous prenons possession du bureau de l'Assemblée provinciale, et nous allons demander aux services attitrés de faire ce constat avec nous, de manière à ce que ces responsables-là, des actes tristes, regrettables, impensables, soient punis conformément à la loi.
Signalons que le bureau d'âge a convoqué une plénière ce jeudi 9 octobre où il sera mis en place une commission spéciale et temporaire chargée de l'organisation de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, stabilité des prix de la mesurette de maïs sur les marchés de Mbujimayi. C'est depuis près de 5 mois que le prix de la mesurette de maïs nage entre 2500 et 3300 francs congolais. À la base de cette baisse, le ravitaillement en Mbujimayi de cette denrée alimentaire effectuée par le service national de Kanyamakasese. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plus de 5 dépôts disséminés à travers la ville sont ravitaillés en grande quantité de maïs par le service national de Kanyamakasese. C'est ainsi que la mesurette de maïs de 3,5 kg se négocie au marché de Mbujimayi entre 3000 et 3300 francs congolais. Ce prix représente 1,3 $. Pourtant, les années précédentes à cette même période de semaï, le prix de la mesurette de cet aliment de base galopait jusqu'à 5 $. Explication d'un agent de service national affecté à la vente du maïs.
Nous avons multiplié le nombre de dépôts. Nous sommes à 12 000 tonnes pour la ville de Mbujimayi. C'est ce qui fait que les gens viennent acheter, on dirait, dans un magasin. Une fois arrivé, une fois servi, et vous partez. Et même nous avons cassé cette espèce de réseau de revendeurs qu'on appelle l'antiruba de Diamani.
Les femmes ménagères saluent cette stabilité de prix de cet aliment de base de la province.
Il y a beaucoup de maïs et de services nationaux. Ça nous permet de bien manger avec les enfants.
Et ce de Kanyamakasese a permis que il n'y ait pas hausse de prix sur les marchés. C'est une bonne chose.
Signalons que le prix de maïs est resté également stable au marché maréchal dans la commune de Bipemba, souvent approvisionné par les agriculteurs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Maniema, avant d'aller plus loin, de nombreuses écoles du territoire de Pangui se trouvent dans un état déplorable. Les élèves y étudient dans des conditions difficiles, tandis que les enseignants, pour la plupart impayés, travaillent dans des situations tout aussi précaires. La majorité de ces écoles ne sont pas équipées et beaucoup ne sont pas construites en matériaux durables, aggravant encore les difficultés.
Actualité internationale.
À Madagascar, quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum donné par les jeunes Z au président de la République, lui demandant notamment de démissionner, ce dernier a organisé au Palais d'État une après-midi de dialogue avec différents acteurs de la société, une sorte de grand-messe où étudiants, salariés, représentants religieux, entrepreneurs ont pu venir exprimer leurs doléances au chef de l'État. Sur les 1800 invités, plus d'1 000 avaient fait le déplacement.
L'invité.
Octobre Rose est une campagne annuelle de communication qui vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. La prévention et la lutte contre cette maladie continuent effectivement chaque année afin de réduire les risques de mortalité. En ce mois d'octobre, le docteur Antoine Modia, professeur d'université, revient sur l'importance de la sensibilisation au dépistage des cancers du sein et donne des précisions sur l'autopalpation du sein. Suivez docteur Antoine Modia dans cet entretien avec Stanislas Diomi.
Professeur Dr Antoine Modia Oyanjo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes président administrateur de la Fondation des Anges. Et la Fondation des Anges sensibilise les femmes sur le dépistage des cancers du col de l'utérus, cancer de sein. Et comme vous le savez, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation au cancer de sein. Quelle est l'importance, accordez-vous à ce mois?
Mais ce mois ici, c'est un mois dédié mondialement à ces cancers, un cancer qui détruit, un cancer qui est mondialement craint parce que il entraîne presque 50% de décès de femmes.
Sur le plan mondial.
Sur le plan mondial, à peu près. Donc, en France, par exemple, tous les ans, on a à peu près 60 000 cas, nouveaux cas. Et là-dedans, à peu près 12 000 de femmes qui meurent. Et tout dépend du stade auquel on a pu dépister ces cancers. Et pourtant, c'est un cancer qui ne devait pas tuer.
Et dans notre pays, il n'y a pas de chiffres?
Bon, mais écoutez, pour les quelques cliniques et les quelques études que j'ai parcourues, ça représente à peu près 10% de femmes qui font les cancers du sein et 70% en meurent.
Que devons-nous retenir du cancer de sein?
Mais c'est un cancer comme tous les autres cancers. Un cancer, en fait, c'est le fait qu'une cellule, vous savez, chacune de nos cellules a un programme, comme tous les hommes, naissance et la mort. Mais malheureusement, il y a certaines cellules, par exemple au niveau du sein, et qui peuvent ne pas respecter le programme. En fait, tout ceci est contrôlé par ce qu'on appelle le système immunitaire. Mais les défaillances à ces niveaux peuvent être d'origine héréditaire, génétique ou environnementale.
Et alors, docteur, le cancer de sein touche seulement les femmes ou les hommes?
Mais ça, c'est une bonne question. Donc, il y a, en fait, c'est un cancer qui intéresse également l'homme. Mais
on en parle de moins en moins.
On en parle de moins en moins parce que ça ne représente qu'à 1% des cancers du sein.
Docteur Antoine Modia, parlons de l'autopalpation. Plusieurs opinions insistent là-dessus. Mm. Et surtout que nous sommes au mois d'octobre rose.
Oui, oui.
Il y a des femmes et même des hommes qui en profitent pour dire, tiens, c'est le mois de la palpation. Il faudrait que les hommes puissent palper les seins de leurs femmes. Et cela commence à intéresser même les jeunes filles. Ils se disent, non, on doit me palper les seins pour que je puisse connaître si j'ai le cancer.
Alors,
de
comment cela se passe la palpation, elle est simple. C'est-à-dire qu'il faut prendre la main gauche pour palper le sein droit. Il faut commencer par la base du sein et puis avancer jusqu'au niveau du mamelon. Et à ces moments-là, vous allez vous habituer à connaître votre sein parce qu'il y a toujours une boule dedans. C'est une glande, elle est souple, elle ne pose pas de problème. Et il faut finir toujours par pouvoir presser pour extraire le liquide éventuel qui peut se... Normalement, un sein normal ne peut pas pouvoir donner lieu à un écoulement quelconque.
Oui.
Ni lacté, ni liquidien, ni sanglant surtout. Ces genres de choses. Vous dites des petites filles, parce que maintenant, je crois qu'il faut les faire. Comme on a dit, à l'époque, on considérait les cancers du sein comme étant un cancer de femmes âgées, à partir de 50 ans. On dit aujourd'hui, il faut que tout le monde sait pas. Parce que l'environnement a changé, les modes d'alimentation a changé, les gens mangent beaucoup plus gras qu'autrement. Il faut éviter tout ce qui est graisseux, il faut éviter l'obésité, la sédentarité, il faut bouger, il faut toujours bouger. Alors, la palpation, elle est simple. On peut la faire de manière quotidienne, surtout quand on se lave, on passe les mains dessus, ou bien une fois par mois. À ces moments-là, il faut approfondir. On peut être en position couchée pour pouvoir plaquer le sein contre la cage thoracique. On peut facilement découvrir. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de sentir des boules, mais à partir d'un certain âge, j'ai dit à partir des 40 ans, il faut aller faire ce qu'on appelle la mammographie. Là, on peut détecter les cancers du sein dès le début, dans encore les canaux galactophores, donc l'autopalpation. Quand vous avez dit que les hommes veulent bien palper les seins de leurs femmes, mais je crois que c'est un service qu'elles peuvent. Il faut dire aussi que le sein, ça ne sert pas qu'à donner du lait aux enfants. C'est aussi un organe érotique. C'est vrai, mais il ne faut pas qu'on en profite.
Professeur Dr Antoine Modia Oyanjo, je rappelle que vous êtes président administrateur de la Fondation des Anges. Nous vous disons merci.
Mais c'est moi qui vous remercie parce que vous aidez ces femmes-là à pouvoir s'auto-sauver.
C'était notre invité, Dr Antoine Modia, qui s'entretenait avec Stanislas Diomi. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal du matin qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Poli Mousalia. Sa mise en onde était assurée par Pierre Diassinois. Vous pouvez encore suivre ce journal sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet qui est www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.